Alléluia. Le thème qui m'a été demandé de partager avec nous est intitulé « Le couple chrétien et les nouvelles technologies ». Les NTIC signifient « Nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Alors, avant de lire le texte de base, j'aimerais d'abord peut-être préciser dans ce thème, lorsqu'on parle de couple chrétien, évidemment ce thème a deux volets. Vous voyez, on parle du couple chrétien et on parle également des nouvelles technologies de l'information. Donc, je comprends que si vous comprenez aussi avec moi, c'est que nous voulons parler du mariage parce que lorsque nous parlons de couple dans l'Église, nous parlons de couple marié. Bien entendu, dans le processus qui conduit au mariage, il y a les fiançailles. Mais ce dont nous en voulons parler, c'est nous ne voulons pas parler des fiançailles, nous voulons parler des couples mariés. C'est important que nous puissions clarifier cela dès le départ parce que les choses, au fur et à mesure que le temps passe, les choses sont aussi en train de changer concernant les relations qui sont supposées conduire au mariage. Je me rappelle une fois, il y a de cela quelques années, j'étais ancien dans une église, l'église que nous fréquentions lorsque nous étions aux études à l'étranger, et il y avait un frère qui venait d'être élu, comme on le fait ici, élu diacre, mais qui devait servir comme responsable d'un ministère. Et ce frère était dans une relation avec une sœur de la paroisse. Et donc, le conseil des anciens a décidé de l'écouter sur un certain nombre de choses en rapport avec sa vie, mais aussi en rapport avec sa relation avec cette sœur. Et j'étais honnêtement très surpris de ce que, lorsque la question lui avait été posée de savoir, lorsqu'on lui a demandé de définir sa relation avec la sœur qu'il fréquentait, il a répondu en disant « c'est ma petite amie ». Et lorsqu'on lui a demandé cette relation, quel est l'objectif de cette relation, il a dit « bon, c'est ma petite amie, c'est ça l'objectif ». Et nous avons eu de sérieuses difficultés parce que pour le frère, lui, il estimait que bon, cette relation qu'il appelait comme ça, petite amie, était aussi une relation normale, même si elle n'a pas nécessairement l'objectif d'aboutir au mariage. Donc, je donne cet exemple pour montrer que les relations se sont multipliées, les formes de relations se sont multipliées. Il n'y a plus que le mariage, hein, comme nous le connaissons ici. Nous savons qu'il y a plusieurs types de relations. Mais ce dont nous voulons parler du mariage et du mariage chrétien. Alléluia. Alors, c'est quoi le mariage chrétien? Le mariage chrétien, c'est l'union entre un homme et une femme, mais une union qui est bâtie sur le modèle de Christ et l'Église. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je vais lire à partir du verset 15 à 17. Et ensuite, je vais lire du verset 28 au verset 32. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à qui ? À Christ et à l'Église. Lorsque Paul est en train de parler du mariage et qu'il essaie d'utiliser une illustration ou le modèle qu'il utilise, c'est le modèle de Christ comme époux et l'Église comme épouse. C'est ça le modèle. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que il y a mariage et mariage. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde propose plusieurs manières de construire son mariage. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas bâtir n'importe comment. Il y a une manière de bâtir que Dieu nous donne. Et cette manière de bâtir, c'est selon le modèle que Christ nous a donné. Alléluia. Donc, si moi, dans mon mariage, je veux avoir un mariage chrétien, eh bien, c'est ce mariage-là qui, lorsque vous regardez ma relation avec mon épouse, cela vous rappelle Christ dans le rôle que je joue et l'Église dans le rôle que mon épouse joue. Alors, j'aimerais bien circonscrire cela parce que très souvent, lorsque nous bâtissons, nous sommes tentés de suivre d'autres modèles. Et ça, c'est très dangereux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi c'est très dangereux? Eh bien, c'est tout simplement dangereux parce que, vous savez, lorsque une maladie entre dans le corps d'une personne, la maladie entre toujours en commençant par une cellule. N'est-ce pas? Bon, j'ai fait un peu de biologie, c'est pourquoi je le sais. La maladie s'attaque à un organe, à un organisme, toujours en commençant par une cellule. Donc, si vous voyez une personne malade, ça veut dire qu'il y a eu d'abord une cellule qui est tombée malade. Et cette maladie est allée d'une cellule à une autre, jusqu'à affecter des tissus et un ou plusieurs organes et même l'ensemble de l'organisme. Il en est de même de l'Église ou même de notre nation. Si l'ennemi veut s'attaquer à notre nation, il va commencer par la cellule. Et la cellule, c'est la famille, le mariage, la famille qui est composée de l'homme et de la femme. Les enfants, ça vient après. Nous devons donc faire attention à la manière dont nous bâtissons nos couples parce que si nous bâtissons correctement, alors nous aurons des couples solides, en bonne santé, des couples qui peuvent résister au modèle ou à l'influence qui provient du monde parce que nous sommes appelés à être lumière pour le monde. Alléluia. Et nous devons assumer cela. Être lumière, c'est-à-dire modèle pour ceux qui sont encore loin du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous invite à gagner, comme nous l'avons entendu lors du message dans le culte anglophone ce matin. Alors, donc, nous parlons du couple chrétien et des nouvelles technologies. Qu'est-ce que j'entends par nouvelles technologies? Eh bien, les nouvelles technologies, sans être très, très techniques, il s'agit de tous ces outils dont nous disposons, tous ces outils modernes dont nous disposons, qui nous permettent de communiquer. Il s'agit des téléphones qui sont devenus intelligents et qui vont certainement devenir de plus en plus intelligents. Il s'agit de la télévision et toutes les innovations qu'on retrouve dans le monde de la radiodiffusion, de la télévision. Donc, il s'agit des ordinateurs, ainsi de suite, et il s'agit de tout ce qui a comme procédé informatique ou en rapport avec la télécommunication qui nous permet d'échanger l'information ou d'accéder à l'information très rapidement, n'est-ce pas? Et une information très sélectionnée et très ciblée par rapport à nos besoins ou même par rapport à nos besoins que nous connaissons ou même que nous finissons par découvrir plus tard. Donc, nous avons tous, chacun de nous, accès à ces technologies. Nous avons, la majorité d'entre nous ici, dispose des téléphones ou des tablettes ou des ordinateurs que nous utilisons tous les jours. Eh bien, tous ces instruments, tous ces outils nous rendent énormément de services, n'est-ce pas? Oui, ces outils sont une bénédiction. Ils sont une bénédiction. En quoi est-ce qu'ils sont une bénédiction? Ils sont une bénédiction, je l'ai dit, parce que aujourd'hui, plus qu'avant, nous pouvons communiquer en permanence. Le temps nécessaire pour échanger l'information a considérablement été réduit grâce à ces innovations technologiques. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'être en présence d'une personne physiquement, en présence de votre partenaire, de votre conjoint, pour communiquer. Et ça, c'est merveilleux. Avant, lorsque on se déplaçait, je me souviens, lorsque j'étais encore préadolescent, mon père avait été muté vers une autre province et nous étions restés à Kinshasa avec ma mère et mes sœurs et mes tantes, mes oncles. Et chaque fois que nous devions communiquer avec mon père, nous devions payer le bus, nous déplacer, aller à un endroit qu'on appelait la phonie. Et la communication était vraiment catastrophique. Il fallait crier. Et on entendait la voix de l'autre côté un peu embrouillée là. Et parfois, il parle pendant quelques minutes, c'est fini. Alors, je me souviens, chaque fois, bon, j'étais obligé de me contenter de la voix. Je ne pouvais pas demander de parler avec lui directement parce qu'il y avait tellement de choses à dire en très peu de temps. Voilà. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, quand je me déplace, je peux parler avec mon épouse et même mes enfants, même en visuel, n'est-ce pas? Oui. Je peux partager même ce que je suis en train de manger. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Voilà. C'est une bénédiction parce qu'aujourd'hui, la distance physique n'est plus vraiment un très grand problème. Donc, nous avons la possibilité de rester connectés à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, malgré la distance. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, probablement, il y en a qui nous suivent de n'importe où dans le monde. Donc, c'est une bénédiction. Nous pouvons garder le contact même lorsque physiquement nous sommes distants. Et donc, puisqu'il est possible de communiquer même lorsqu'on est distant, donc c'est aussi possible d'avoir, par exemple, nos cultes familiaux, même lorsque on n'est pas présent à la maison, n'est-ce pas? Voilà. En cela, c'est vraiment une grande bénédiction. Avec mon épouse, par exemple, nous sommes dans un programme de méditation de la Bible, un programme en ligne. C'est tellement merveilleux parce que même lorsque je ne suis pas là, même lorsque je suis en déplacement, elle peut lire un passage biblique, le commenter, et je vois tout de suite ce qu'elle a fait comme commentaire, et je peux réagir aussi à son commentaire. Vous voyez comment est-ce que c'est fantastique. C'est vraiment une très grande bénédiction, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, la deuxième, c'est aussi une bénédiction parce que maintenant que nous avons ces outils, les problèmes de stress, le problème d'anxiété, par exemple, qui est lié à la distance, sont plus ou moins minimisés. Si votre conjoint est loin de vous, vous pouvez lui apporter un soutien psychologique, un soutien émotionnel, n'est-ce pas? Grâce à la technologie. Oui. Donc, quelque part, c'est un outil qui nous aide aussi, en tant que couple, à rester ensemble. C'est aussi une bénédiction parce que, surtout du point de vue financier, si vous êtes loin de votre partenaire ou de votre conjoint, vous pouvez facilement intervenir financièrement alors que vous n'êtes pas là. N'est-ce pas? Oui. Vous pouvez faire un paiement à distance. Vous pouvez payer, il y en a même qui payent le Minerval des enfants, même lorsque, sans être présent physiquement. Vous pouvez même acheter et même vendre à distance. Donc, vous voyez que ces outils nous ont facilité beaucoup la vie. Mais en même temps, malheureusement, les nouvelles technologies de l'information viennent aussi avec des défis. Ces outils viennent avec des défis et des défis pour nous individuellement, mais aussi des défis pour nous en tant que couple chrétien. Alors, j'aimerais nous soumettre chacun à un petit test. Je ne sais pas si les médias ont le fichier que je leur ai envoyé, mais j'ai préparé 4 questions que j'aimerais nous poser. La première, essayez de répondre individuellement à cette question, vous-même, à chacune de ces 4 questions. Et essayez de retenir si vous avez répondu oui à combien de questions et si vous avez répondu non à combien de questions. Il n'y en a que 4. Nous sommes ensemble. Première question ou première affirmation. Ce sont des affirmations. Essayez de retenir votre réponse. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, je vais lire. J'éprouve un sentiment d'inquiétude pénible lorsque la batterie de mon téléphone est déchargée ou lorsque je perds l'accès à Internet ou à la télévision. Oui ou non? Répondez pour vous-même. Deuxième question. J'utilise mon téléphone ou ma tablette jusqu'à la minute où je me couche et je le consulte à la minute où je me réveille. Oui ou non? Quand je me sens seul, stressé ou anxieux, je prends mon téléphone ou je regarde la télévision. Quatrième question. Il m'arrive souvent d'être longtemps au téléphone ou devant la télévision sans réaliser que j'y ai passé trop de temps. Oui ou non? Alors j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui a répondu non à ces 4 questions, levez la main. 1, 2. Toutes les 4 questions, vous avez répondu non. 1, 2, 3. 3 personnes. Qui a répondu non à 3 questions? On a un nombre plus. Qui a répondu non à 2 questions? À 1 question? À aucune question? À aucune question? Non, il n'y a pas d'abstention. Bon. Si vous avez répondu oui, c'est-à-dire si vous avez répondu oui à au moins 3 de ces questions, vous avez un sérieux problème avec les nouvelles technologies de l'information. Vous avez un sérieux problème et le problème que vous avez, je ne suis pas psychologue, mais en préparant ce sermon, je me suis suffisamment documenté sur ces questions. Si vous avez répondu oui, ce n'est pas un diagnostic de psychologie clinique, non, j'aimerais préciser. C'est juste une évaluation superficielle. Parce qu'en vérité, un bon diagnostic, pour un bon diagnostic, il faut voir un spécialiste que je ne suis pas. Alors, mais si vous avez répondu oui à au moins 3 de ces questions, c'est que vous êtes exposé. Vous êtes exposé à quoi? Vous êtes exposé au risque d'addiction. Au risque d'addiction aux nouvelles technologies ou à la dépendance à ces outils technologiques. Vous voyez, ce sont des outils, mais ces outils sont pour nous comme des instruments. Mais si ces outils peuvent devenir pour nous des maîtres et nous contrôler. Et lorsque cela arrive, c'est notre santé mentale qui est affectée. Notre santé mentale. J'aimerais vous lire ce que l'affirmation que une recherche, voilà, vous l'avez devant vous, les écrits sont trop petits malheureusement, mais cette affirmation, je l'ai tirée d'une organisation qui s'appelle Psychom, qui a été fondée par un psychiatre très renommé, ceux qui sont spécialistes en psychologie clinique doivent le connaître, Monsieur Ivan Goldberg. Il est même à l'origine d'un test qu'on appelle le test de Goldberg. Alors voici ce que cette affirmation, l'extrait de cette analyse dit. Certaines données suggèrent que si vous souffrez d'un trouble de dépendance à Internet, la composition de votre cerveau est similaire à celle des personnes souffrant d'une dépendance à une substance chimique comme la drogue ou l'alcool. Certaines études établissent un lien entre le trouble de la dépendance à Internet et la modification physique de la structure du cerveau, notamment en ce qui concerne la quantité de matière grise et blanche dans les régions du cerveau préfrontal. Cette zone du cerveau est associée à la mémorisation des détails, à l'attention, à la planification et la hiérarchisation ou la priorisation des tâches. Voilà ce que les études ont montré. Donc, si vous souffrez, si vous afficher un problème de dépendance vis-à-vis de l'Internet ou de tous les gadgets qui nous permettent de nous connecter, en fait, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui est dépendant de l'alcool ou du tabac ou même de la drogue. Du point de vue du fonctionnement du cerveau, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est ce que ça signifie. Alors, donc vous voyez que, en même temps, ce qui est pour nous une bénédiction peut devenir un danger pour notre propre... Je ne vais même pas dans le domaine spirituel, mais pour notre propre santé mentale. Et pourquoi notre santé mentale est importante pour nous individuellement? La première raison pour laquelle notre santé mentale est importante, c'est parce que Dieu nous parle par notre intelligence. Alléluia. La plupart du temps, Dieu nous parle par notre intelligence. Je sais que nous vivons dans une société où les gens croient beaucoup, cherchent même, fabriquent même les prophéties et tout ça ainsi de suite. Mais comme le disait un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, si Dieu nous a donné un cerveau, c'est parce qu'il veut que nous puissions l'utiliser. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin pour me parler. En fait, Dieu a accès à mon cerveau sans nécessairement passer par mon oreille. N'est-ce pas? Pour que vous me parliez, en tout cas, vous devez, pour atteindre mon cerveau, mon intelligence, je dois vous écouter. Ça doit passer par l'oreille. Mais Dieu n'a pas ce problème. Dieu peut atteindre votre cerveau sans passer par vos oreilles, ou même par vos yeux, par vos organes de sens. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Ce n'est pas toujours nécessaire d'entendre une voix audible. En fait, ce serviteur de Dieu disait, si pour vous, pour que Dieu vous atteigne, vous devez écouter sa voix de manière audible, c'est que vous êtes incrédule. C'est un problème. Combien d'entre nous se souviennent de l'histoire de Balak et de Balaam dans la Bible? Dieu a dû parler à son prophète par une âne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que ce prophète ne savait pas quelle était la volonté de Dieu. Il savait. Quand Dieu dit, tu ne peux pas bénir et maudire, pardon, ce que moi j'ai béni. Mais il était tellement entêté que Dieu a dû utiliser un animal pour lui parler. Et ce n'était pas une qualité pour lui. Alléluia. Donc je ne méprise pas ici la prophétie, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la plupart du temps, Dieu nous parle par notre intelligence. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que nous ayons notre cerveau ou notre intelligence sobre. Alléluia. Sobre. Sobre, comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Paul s'adresse à Timothée et il dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Alléluia. Être sobre signifie être à l'abri des excès, éloigné des excès. Excès de table, excès de boissons. Et il dit en toutes choses. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit seulement la nourriture. Alléluia. Paul n'a pas parlé de nouvelles technologies parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il a parlé des excès de table, il a parlé du vin, de l'alcool. Mais s'il avait vécu à notre époque, il ajouterait les nouvelles technologies de l'information. Lorsque nous manquons de modération, c'est ça le contraire d'être sobre. Quand on n'est pas sobre, on manque de modération. On manque de tempérance. On fait les choses en dépassant la mesure. On est dans les excès. On perd le contrôle de ses sens, de ses programmes. C'est ça. Et la Bible nous demande de rester sobre. Si Dieu veut que nous puissions rester éloignés de l'alcool, c'est parce que Dieu veut rester en communication avec nous en permanence. Et Dieu ne peut pas nous atteindre efficacement lorsque nous sommes ivres. Non. Alléluia. Et lorsque nous sommes accros aux technologies, c'est difficile que Dieu puisse nous atteindre. Oui. Parce que tout notre temps et nos affections sont emportés par ces choses. Or, Dieu ne veut pas seulement nous parler. Dieu veut qu'il soit notre passion. La relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas seulement une relation de père et fils ou fille, mais c'est aussi une relation, je l'ai dit, Christ et l'Église, c'est une relation de mari et épouse. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons saints parce qu'il veut que non seulement que nous soyons saints mentalement, mais il veut que nos affections soient entièrement portées sur lui. Alléluia. Là, c'est notre santé spirituelle maintenant. Mais vous voyez qu'il y a un lien avec notre santé, comment je peux qualifier ça? Oui, mentale. Voilà. Alors, il y a un risque, non seulement, ça c'est le risque au niveau individuel, mais il y a aussi un risque au niveau maintenant de notre relation conjugale. Alors là, j'aimerais aussi vous lire l'extrait d'une étude qui a été menée l'année passée, au mois de décembre. L'étude a été menée c'est au Portugal que l'étude a été menée, mais je pense que les conclusions doivent être aussi valables pour nous, parce que la nationalité n'est pas vraiment un élément déterminant dans cette étude. Voici ce que les auteurs disent. Ils disent, les personnes qui passent plus de temps sur Internet le font au détriment, c'est-à-dire en défaveur, du temps qu'elles consacreraient autrement à leur partenaire. En d'autres termes, ces personnes n'accordent pas plus d'importance à la relation avec leur partenaire qu'à l'utilisation de ces technologies. J'allais dire alléluia, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ce sont des faits. Ce sont des faits scientifiques qui montrent que lorsque on devient de plus en plus dépendant, on passe trop de temps sur Internet avec ses gadgets, à la télévision. En fait, ce temps passé ou cette dépendance, ce temps prolongé, ce prolongement de temps se fait au détriment, c'est-à-dire nous le faisons en détruisant notre relation avec notre partenaire. Et comment ça? Parce que d'abord, le temps prolongé avec les nouvelles technologies nous vole le temps précieux que nous aurions dû consacrer à notre partenaire. Et vous savez que quand la Bible nous dit « Marie, aimez votre femme », la Bible dit aussi qu'il n'y a pas de plus grand amour que... Oui, comment on manifeste l'amour? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et notre vie est mesurée comment? Comment on mesure la vie? Oui, par le temps, n'est-ce pas? Oui, quand quelqu'un a vécu 80 ans, on dit qu'il a vécu longtemps, n'est-ce pas? Donc lorsque vous donnez, consacrez du temps à votre partenaire, vous lui consacrez une partie de votre vie. Alléluia. Oui, donner l'amour, ce n'est pas d'abord donner l'argent, les cadeaux, même si ça fait partie, n'est-ce pas? Mais ce que nous donnons d'abord, la chose la plus importante que je peux donner à mon partenaire d'abord, c'est le temps. Le temps. Le temps. Combien de temps vous lui accordez? Combien de temps il vous accorde? Vous pouvez répondre à ça. Plus vous lui accordez du temps, plus vous l'aimez. Alléluia. C'est un risque, les technologies, pour notre relation aussi, parce que la technologie, malheureusement, fait entrer le travail à la maison. Et il réduit ainsi sensiblement l'attention. J'ai parlé du temps, mais maintenant je parle de l'attention. Vous voyez? Parce que c'est différent. Vous pouvez être à côté de moi, mais vous n'êtes pas avec moi. Oui. Parce que je suis là à côté de vous, mais je n'ai pas votre attention. Et cela arrive très souvent. Que le Seigneur nous aide. C'est aussi un risque parce que la technologie met à l'épreuve notre loyauté et notre redevabilité. Bon, ça c'est un mot malheureusement qui tarde à être incorporé dans le vocabulaire, dans le dictionnaire français. Les anglophones comprennent très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire rendre compte. Dans un couple chrétien, on se rend compte mutuellement. Dans mon pays, on n'aime pas ça. Le rapport, on n'aime pas rendre compte. Vraiment, on n'aime pas. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit... Mon expérience, c'est que chaque fois que nous sommes dans une réunion sur le lieu du travail, une question concernant le rapport vient toujours avec des tensions. Toujours. Et même dans le foyer, c'est le cas. Malheureusement, nous avons ce même problème dans l'église. Et si nous avons ce problème dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous avons ce problème dans les foyers chrétiens. Dans les foyers chrétiens, nous n'avons pas la culture de rendre compte. Il arrive parfois que mon épouse me demande « Qu'est-ce que tu es en train de lire sur ton téléphone ?» Et mon instinct naturel souvent me pousse à lui dire « Mais où est ton problème ? Est-ce que tu n'as rien à faire ?» Ça, c'est mon instinct naturel. Et je dois dire à ma chair « Tais-toi, 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 tais-toi. » Et montre-lui seulement le téléphone. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Rendre compte. Combien d'entre nous ici ont un mot de passe, ont un email, une adresse email? Voilà. Non, gardez les mains. Alors, si votre partenaire a le mot de passe de votre email, de tous vos emails, baissez la main. Et gardez la main élevée. Si votre conjoint a le mot de passe de tous vos adresses email ou même de votre tablette ou de votre téléphone, gardez la main. Vous voyez qu'il y a des mains qui ont baissé. Oui, gardez la main, qu'il voit. Okay. Alléluia. Bon, je sais qu'il y a des raisons professionnelles, tout ça qu'on évoque. N'est-ce pas? Oui. Voilà les secrets professionnels, ainsi de suite. Mais en réalité, lorsqu'on est vraiment un, il n'y a rien. Donc, ça ne devrait pas être un risque que mon partenaire sache ce que je sais. Alléluia. Ça ne devrait pas être un risque. Mais ça devient un risque parce que, quelque part, nous avons encore des choses qui doivent mourir en nous. Alléluia. Alors, les technologies, maintenant, nous mettent à l'épreuve notre loyauté. Suis-je loyal avec mon partenaire? Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut paraître des petites choses, mais ce sont les petites choses qui font les grandes. Ce sont les petits microbes qui sont à l'origine des grandes, grandes maladies et même de la mort. Alléluia. Donc ne regardons pas ces choses comme des petites choses, ce sont des choses qui sont potentiellement très dangereuses. Alors, j'ai parlé longtemps. J'aimerais terminer avec le dernier point qui est celui de l'action. L'action ou la solution. Que dois-je faire pour que la menace des nouvelles technologies de l'information ne puisse pas atteindre mon couple? Alléluia. Et là, j'aimerais que nous puissions répondre ensemble à cette question. Parce que je sais que vous avez aussi la réponse à cette question. Alors, mais nous n'allons pas répondre n'importe comment. Nous allons répondre avec une base. Nous avons dit que nous allons construire nos couples avec un modèle, n'est-ce pas? Et le modèle, c'est celui qui nous est donné par la parole de Dieu. 1 Corinthiens, si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. J'aimerais que nous puissions répondre à cette question en nous basant sur ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Et voici la question. Quelles actions dois-je mener en tant que mari ou en tant qu'épouse? Quelles actions dois-je mener pour réduire la menace des nouvelles technologies sur le développement harmonieux de ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe? Que dois-je faire? Quelle action concrète? J'aimerais, pour ceux qui sont ici avec leurs épouses ou avec leurs époux, j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre entre vous. Nous sommes ensemble. Oui. Ceux qui sont avec leurs épouses, essayez d'en parler avec votre... Bon, j'espère que vous êtes assis à côté de votre partenaire, s'il est dans la salle. Parce que sinon, vous risquez de parler avec le partenaire de quelqu'un d'autre. Bon, mais si vous n'avez pas votre partenaire avec vous, répondez quand même à cette question. Que dois-je faire pour prévenir ou réduire la menace des nouvelles technologies sur le développement harmonieux de ma relation avec mon conjoint ou avec ma conjointe. Je parle des actions concrètes, pratiques. Par exemple, vous voyez, la Bible dit que si votre œil vous pousse à pécher, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Pour vous, par exemple, l'action concrète peut être de vendre votre smartphone, n'est-ce pas? C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est ça. J'ai donné ça comme un exemple. Mais il y en a aussi qui ont décidé de le faire. Ils ont décidé de revenir au téléphone qui n'était pas intelligent. Oui, même, oui. Et il y a même une entreprise, dont je ne vais pas citer le nom, pour ne pas faire la publicité, qui a décidé de relancer la production de ces anciens téléphones-là qui n'ont pas d'écran tactile. Donc les téléphones qui nous permettaient seulement d'appeler et d'envoyer les textos, terminé. Peut-être de lire l'heure aussi. C'est tout. Alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez mener comme... Surtout que vous avez levé la main ici, quand j'ai donné les quatre questions. J'avais vu beaucoup de mains levées. Hein? Vous êtes souvent anxieux quand vous n'avez pas le téléphone. Vous sursautez même. Il est où le téléphone? Parfois, on ne sursaute même pas quand on ne voit pas son fils ou sa fille. Mais quand c'est le téléphone, on sursaute, n'est-ce pas? C'est de ça que je parle. Si vous avez ce problème-là, ou bien vous vous réveillez, vous vous endormez avec votre téléphone, quelles actions concrètes vous pouvez prendre pour éviter que vous tombiez dans l'addiction ou que votre relation avec votre partenaire ne soit négativement affectée? Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent répondre? À vous la parole. Oui. Ou si vous n'êtes pas marié, ou si vous n'avez pas votre conjoint avec vous, vous pouvez avoir un conseil, n'est-ce pas? Pour ceux qui peut-être n'ont pas d'inspiration en ce moment. Oui, oui papa.
Merci pour la parole. Pour moi, je peux prendre comme solution de faire un horaire, programmer ma journée. Je sais que de telle heure à telle heure, je peux faire ceci. Et de telle heure à telle heure, je peux consulter aussi mon téléphone pour me former aussi des choses qui se passent dans le monde. Voilà, et puis, donc faire un horaire, un programme de la journée, ça peut m'aider aussi de trouver le temps, aussi d'être à côté de mon épouse et lui donner le temps qu'il veut.
Alléluia. Combien ont planifié leur après-midi d'aujourd'hui? Qui ont un programme qu'ils ont tracé pour l'après-midi de cette journée. Vous voyez, il y a des mains qui ne sont pas levées. Il y a des gens qui ont besoin de ces conseils. Quelqu'un d'autre, un autre, une ou une volontaire?
Alors, je pense que pour moi, personnellement, une des choses que nous avons, enfin, que j'ai décidé, c'est qu'à une certaine heure, je ne reçois plus ni ne réponds aux messages et aux appels. Donc, quand je sais qu'il est 20 heures, ça veut dire que même si vous m'envoyez un message, à moins que vous ne soyez vraiment quelqu'un de très, 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 très proche, je ne vous répondrai pas. Non, c'est comme ça.
Comment vous faites? Ah, vous laissez quand même le téléphone allumé.
Oui, le téléphone est allumé.
Les messages
entrent. Les messages peuvent arriver. Mais je sais filtrer. Est-ce que je dois répondre à ce message ou pas? Parce que tout n'est pas urgent.
Ah, pour filtrer, oui. Vous devez donc être encore sur le téléphone.
Oui. Donc, on n'est pas vraiment obligé de répondre à tous les messages. Et aussi, une deuxième chose, c'est que tout ce qui est lié au travail, vraiment, reste au travail. La machine du travail, je ne rentre pas avec elle à la maison. C'est difficile, mais c'est quelque chose que j'ai déjà décidé. Voilà.
Ok. Oui. Donc, la question, c'est de savoir, sur base de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, quelles actions concrètes dois-je mener en tant que mari ou épouse pour réduire la menace des nouvelles technologies sur le développement harmonieux de ma relation avec mon épouse. J'aimerais écouter une maman ou une sœur. Oui, maman Bukundika.
Ok, merci pour la parole. Et je vais juste donner mon expérience avec mon téléphone. Et par exemple, moi, personnellement, je me connecte seulement les week-ends. Donc, je me connecte les samedis et les dimanches. Et les autres jours, je laisse. Donc, je communique avec ma famille, quoi. C'est ça. C'est juste un petit conseil que je peux donner aux autres mamans. d'avoir le temps avec les enfants, oui. Et donc, ce n'est pas à dire que j'ai le téléphone
oui.
tous les jours, mais sur Internet, c'est samedi et dimanche seulement. C'est juste une détermination, c'est juste une discipline qu'on se donne. Oui.
Voilà, elle est là, sa formule. Bon, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous, mais ça marche pour elle, ça peut marcher également pour certains d'entre nous. Oui, maman, vous pouvez passer le micro à notre maman ici.
Moi, à mon avis, je pense qu'il faut se discipliner. Il
oui.
faut être très discipliné, être dur avec soi-même. Vu que c'est une addiction, ça veut dire qu'il faut un sacrifice. Par exemple, si vous êtes en train de préparer, vous coupez juste votre connexion pour ne pas être tenté avec les tondos. Hein? Parce que tout le temps, quand vous avez ça, vous tentez, vous avez l'intention de prendre votre téléphone. Mais quand vous n'êtes pas connecté, vous n'allez pas être tenté. Quand vous dites que non, votre mari vient d'arriver, vous coupez la connexion, vous occupez de votre mari. Je pense qu'il faut juste bien répartir ses tâches. Quand ça, c'est nécessaire, il ne faut pas toucher le téléphone, c'est tout. Et du genre, il faut aussi que ça puisse être un sacrifice, quoi.
Donc, il faut se discipliner et être prêt à faire des sacrifices. Oui, papa Bukunika.
Ok, merci pour la parole. Pour moi, c'est un cas extrême. Moi, je ferme carrément le téléphone, même pendant 2 jours. Ça semble être bizarre si tous mes frères me taxent de, entre guillemets, de mouchamba parce que j'éteins mon téléphone. Mais pour moi, c'est très important. Quand je suis dans mon travail, il faut que j'utilise mon cerveau au max. J'éteins carrément le téléphone.
Okay.
Et je peux faire même 1, 2, 3 jours comme ça. Et quand je reviens, je reviens toujours avec des réserves beaucoup plus positives par rapport à celui qui était connecté sur le téléphone. Là, ça, c'est pour les cas de travail.
Oui.
Mais aussi, je me suis donné la discipline de travailler jusqu'à 17 heures. Après 17 heures, je ferme mon ordinateur et je ne touche plus à l'ordinateur parce que je sais que c'est le moment où les enfants vont venir de l'école, l'épouse va venir. Alors, c'est le moment de la famille. Alors, j'éteins tout ce qui est travail, tout ce qui est électronique. La télévision, c'est mes enfants qui m'ont bousculé pour amener la télévision à la maison. Mais je ne voulais pas de la télévision aussi. Alors, ils m'ont mis une pression. J'étais le seul contre tous. Finalement, ils ont grandi. La démocratie a triomphé dans la maison. Alors, j'étais obligé de... Mais malgré ça, la télévision, on les voit souvent le soir.
OK.
Ouais, merci beaucoup.
Voilà, c'est édifiant. Papa Welka.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais donner une idée seulement. Souvent pour essayer d'esquiver cette question, moi j'achète uniquement les mégas qui sont strictement nécessaires pour une activité professionnelle par exemple. Et quand ça se termine, je n'achète plus de mégas. Et donc là, je vais laisser ça comme ça. Et à un certain moment, comme a si bien dit Jérémy, j'accepte de mettre le téléphone à côté et je ne reçois plus les appels. Je vais répondre le matin.
Ouais. Voilà, lui, il gère le budget de l'Internet. Oui, maman?
Oui, merci pour la parole. Moi, je pense que la gestion du téléphone dépend du travail de chacun. Puisque nous, par exemple, pour nous, si vous fermez le téléphone, c'est une mort d'homme.
Quelle est votre profession, maman?
Je suis médecin.
Ah, ok.
Oui. Maintenant, là, si vous parlez de gérer le téléphone, nous, c'est compliqué. On est obligé d'être en ligne à tout moment et à chaque instant. Maintenant, là, je vais dire que la gestion du téléphone dépend du travail de chacun et de comment vous vous comportez. C'est tout.
Bon, maintenant, pardon, attendez. Est-ce que en tant que médecin marié, vous sentez la menace du téléphone sur votre relation avec votre conjoint?
Oui, bien sûr, il y a un risque, maintenant, risque important et permanent.
Maintenant, quelles actions vous menez, vous, en tant que maman médecin? Puisque vous avez bien dit que ça dépend, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les actions que vous allez mener seront différentes, par exemple, des actions que moi je peux prendre comme enseignant. Voilà. Donc, à votre avis, comment vous pouvez protéger votre relation avec votre conjoint tout en gardant vos obligations professionnelles.
Oui, en rapport avec ma relation avec mon conjoint, il me comprend. Il me comprend seulement. Puisque même, il arrive même des moments où vers 1h, 2h, s'il y a par exemple un confrère qui a des difficultés, il est obligé d'appeler et je suis obligée de répondre. Et le mari est obligé de se réveiller pour... Ça, c'est compliqué.
Bon, ceux qui vont épouser des médecins, vous êtes prévenus. Oui, je vais prendre... Oui, maman Jessie.
Moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport au téléphone? Ça, c'est notre témoignage. Depuis un certain temps, on s'est dit quand même, on arrive à la maison, après que les enfants sont partis au lit, directement, chacun de nous répond son téléphone. Tu veux maintenant te connecter parce que tu es au travail, tu n'as pas eu le temps de chatter, tout ça. Mais ce qu'on s'est dit est que à partir de 21h, on se déconnecte totalement et on laisse les téléphones. Et pour prendre un peu du temps pour nous parler de la journée et tout ça, ça commence vraiment à nous aider. Et de moment, on en soit, mais je pense que comme on a réussi avec les enfants pour la télé, parce que chez moi, la télé s'allume que le samedi et le dimanche, et c'était difficile pour les enfants, mais ils ont su s'adapter. Donc nous aussi, on peut s'adapter.
Oui, papa. Oui, papa. Papa Jaro.
Merci beaucoup. Je crois que c'est difficile, mais ça affecte souvent aussi la famille. Alors, moi, c'est ce que j'ai essayé parce que je suis presque absent à la maison toute la journée. J'arrive presque à 19h. J'ai essayé, mais ça, jusque-là, ça n'a pas marché, il faut avouer. Je me suis dit, quand j'arrive à la maison, je laisse le téléphone à chambre. Mais il y a toujours des appels. Alors, je crois, à travers cette assemblée, j'aurai quand même des exemples déjà qui ont réussi. Parce que lorsque on ne décroche pas, par exemple, à un supérieur, parce que même si je ne suis pas au boulot, je suis obligé de continuer à travailler, soit à suivre quelqu'un qui est en train de présenter une émission parce qu'il faut que je lui donne des remarques demain. Alors, on est un peu occupé. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont dans le même cas que moi. Je peux laisser le téléphone en chambre, mais c'est quelqu'un d'autre qui va vous appeler. Alors que je me suis déjà donné la discipline de dire, je laisse le téléphone en chambre. Mais le téléphone est ouvert. Alors quand quelqu'un m'appelle, je suis tenté d'aller prendre et puis continuer encore le rythme normal. Mais pour d'autres cas, je me suis dit, il y a par exemple quelqu'un qui peut vous donner même les rapports à 19h. Alors là, je me dis, ok, avant de quitter le boulot, j'ai dit, quelqu'un qui devait envoyer quelque chose, un reportage ou quelque d'autre, je lui dis, jusque, je reçois votre reportage jusqu'à 17h. Si vous n'envoyez pas avant 17h, sachez que je vais vous répondre demain. Et là, ça a marché. Mais à la maison, il y a encore un problème parce que je ne sais pas me désolidariser de mon téléphone alors que je l'ai déjà mis physiquement loin de moi. Voilà.
Oui. Bon, je vais prendre... Maman Prisca, papa, vous qui êtes là, maman... Oh là là. Bon, nous ne saurons pas prendre toutes les questions. Je suis en train de regarder les réponses. Je suis en train de regarder le temps. Souffrez que nous puissions nous limiter avec le temps parce que j'aimerais aussi terminer en donnant quelques pistes, quelques actions qui peuvent nous aider. Oui, maman Prisca.
Oui, merci beaucoup. Moi, ce qui m'aide personnellement, parce que le téléphone de mon mari, c'est son bureau. Donc, on peut l'appeler même jusqu'à 22h, 23h. Maintenant, pour l'aider et m'aider personnellement, deux fois, je mets le téléphone sous mode d'envion pour l'aider et pour m'aider.
Vous deux mettez son téléphone
sous mode d'envion. Quand il est, par exemple, 21h et il a oublié de le faire, je l'aide et je mets sous mon d'envion. Ou soit, deux fois, il quitte le boulot trop fatigué, oui. Il se repose.
Oui.
Et quand il dort, je mets directement sous mon d'envion parce qu'il ne peut pas faire 5 minutes sans appel. Deux fois, on m'appelle parce qu'on lui a déjà manqué. Alors pour nous aider, je mets directement ce mode d'envie. Et quand il trouve ça, il ne change pas et on continue la vie.
Et vous vous sentez aidé aussi? Oui, il a acquiescé. Oui, papa.
Je pense, pour moi, le téléphone n'est pas un grand danger pour moi et oui, pour un foyer chrétien. Si le téléphone ne me conduit pas à un péché, je pense
oui,
que ce n'est pas un problème.
Oui.
Parce que même maintenant, moi, je suis connecté.
Oui.
Je viens de penser plus de 3 ans. Je me déconnecte peut-être quand je n'ai pas d'énergie, bien qu'il y a expiration des mégas d'un mois.
Oui.
Même maintenant, là, je suis franc, je suis connecté. Mais je ne peux pas toucher mon téléphone à l'église parce que je sais que toucher le téléphone à l'église, pour moi, je suis convaincu que non, c'est un péché. Et si on peut se mettre d'accord avec ma femme,
oui,
nous nous mettons d'accord avec ma femme. Quand tu me vois avec le téléphone, unichukulie kwanza kidogo. Et moi, si je vois ma femme avec son téléphone, mina muchukulia, et puis nous avançons, ça péché bien sûr.
Bon. Alléluia. Maman Merli.
Bon, moi je voulais aussi dire que ce qui peut nous aider à être toujours en relation pendant que chacun a son téléphone, il faut s'intéresser à ce que l'autre aime. Parce que des fois, moi, je peux regarder un film et lui, il est en train de suivre le match. On peut se décider de suivre le match, nous tous ensemble, ou soit on suit le film, nous tous ensemble, et ça va nous aider à parler, à commenter par rapport à ce que nous sommes en train de faire ensemble.
Ah, vous amenez carrément votre conjoint dans l'espace virtuel que vous avez. Oui, maman.
Merci pour la parole. C'est juste un ajout pour compléter un peu les autres. Moi, je dirais que normalement, il faut se fixer des règles.
Oui.
Normalement, Dieu a mis des choses à notre disposition. Ce ne sont pas ces choses-là qui doivent nous conduire, quoi. Ce ne sont pas les choses-là qui doivent nous dicter, tu dois faire ça. Nous ne pouvons pas être tellement connectés ou bien nous fixer sur des télévisions. Parce que quand je suis... parle seulement des téléphones. Ce ne sont pas seulement des téléphones qui peuvent laisser à qui sait que notre relation n'aille pas bien. Dans le verset que nous avons lu, celui de Timothée, on a dit « Soyez sobres dans toutes choses ». Mais ici, nous sommes en train de nous fixer seulement sur les téléphones. Il y a aussi les amis, il y a tant de choses, nous avons tant de défis que nous devons soulever. Ce n'est pas seulement les téléphones ou bien seulement la télévision. Il y a aussi les sports, il y a les personnes qui sont vraiment, si elles ne font pas les sports, c'est toute autre chose. Il y a des personnes qui aiment, vraiment c'est beaucoup, que Dieu nous aide et que nous puissions nous fixer réellement des règles qui doivent nous conduire. Si je peux proposer par exemple, si on peut dire non, je laisse le téléphone par exemple au salon, ou bien je ne suis pas comme Papa Bukundika a dit, je ne vais pas regarder la télévision, ou bien cette semaine je consacre ça à l'autre, parce que vous pouvez suivre la télévision avec votre mari, vous commentez, mais vous ne saurez pas régler les problèmes qui se trouvent entre vous deux. Donc ce n'est pas seulement le téléphone, il y a tant de choses vraiment, que Dieu puisse nous aider. Merci.
Merci beaucoup. Alors bon, ça lui reviendra. Mais au moins, je dois quand même donner mon commentaire final. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a un pasteur dont j'ai bénéficié des enseignements lors de ma préparation au mariage, qui a dit ceci. Aucune réussite professionnelle ne peut compenser pour un échec dans le foyer. Donc, je peux réussir dans ma carrière, mais cette réussite-là que j'atteins dans ma carrière ne peut pas compenser mes échecs dans mon foyer. Ça, c'est une parole de sagesse qui peut nous aider aussi. Alléluia. Alors, je sais que l'Esprit de Dieu que nous avons, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, il produit en nous du fruit. Et l'un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Et je sais que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et il peut produire ce fruit-là si nous le lui permettons. Alors, lorsque nous réalisons que c'est difficile, c'est justement pour les choses qui sont difficiles que l'Esprit de Dieu nous a été donné. L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné pour faire des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Alors, je l'ai dit pour nous inviter à aller à la croix dans la prière. Lorsque nous réalisons que, Seigneur, je vais réussir dans ma carrière, mais en même temps, mon foyer est en danger. Alors, certains d'entre nous ne réalisent peut-être pas le danger pour notre relation. Et c'est pourquoi j'aimerais ajouter cette information. Certains chercheurs ont montré que dans la communication, il y a, dans la communication dans un foyer, entre deux partenaires, il y a 5 niveaux de communication. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la communication cliché. Ce sont la communication que vous pouvez avoir avec même un inconnu, quelqu'un que vous rencontrez ici, vous pouvez lui dire comment ça va. Et souvent, quand on pose la question comment ça va, on ne s'attend pas à une réponse sincère, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la communication que vous pouvez avoir avec même un inconnu. Le deuxième niveau, c'est le niveau où on rapporte les faits. Voyez? Vous rapportez les faits, ce qui s'est passé. Ah, chérie, il n'y a plus de lait. Le délai pour le paiement du Minerval est déjà dépassé. Là, vous êtes en train de communiquer. Mais vous communiquez sur des faits. Ce n'est que le deuxième niveau de la communication. Et le troisième niveau, c'est celui de partage des opinions. Vous donnez votre avis sur votre partenaire, sur ses amis, sur ses fréquentations, sur son travail, sur tant de choses. Vous partagez les opinions. Vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir ce type de communication avec un inconnu, n'est-ce pas? Voilà. Le quatrième niveau, c'est celui de partage des besoins et des sentiments, où vous exprimez à votre partenaire ce que vous ressentez, vos besoins intimes. Et le cinquième niveau, ce qu'on appelle l'ouverture totale. Là où vous êtes complètement transparent avec votre conjoint ou votre conjointe, où vous échangez des choses que lui seul sait ou que vous seul vous savez. C'est le genre de conversation que vous ne pouvez pas avoir. Parfois, vous pouvez vous priver de partager cette information avec votre mère ou avec votre père ou avec votre meilleur ami, mais vous partagez cela avec votre conjoint. C'est le niveau le plus élevé parce que à ce niveau-là, vous êtes complètement vulnérable. Vous êtes nu, comme Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous ne nous donnons pas du temps, et lorsque je parle du temps, je ne parle pas du temps que vous êtes ensemble en train de regarder la télé. Il ne s'agit pas de ça. Là, vous êtes ensemble, c'est vrai, mais vous ne communiquez pas. Votre communication ne peut pas se développer de cette manière-là. Parce que votre attention n'est pas portée sur l'autre. Votre attention est portée sur un objet qui est extérieur à vous. Mais nous parlons de une communication de qualité. C'est-à-dire qui vous permet d'arriver jusque au cinquième niveau de la communication où c'est vrai, votre amour propre, votre relation peut être mise à l'épreuve, mais lorsque on vit à ce niveau-là, eh bien, vous échangez au niveau le plus élevé, le plus profond, et votre couple est susceptible véritablement de se développer et de fleurir et d'être à l'image de ce que le Seigneur attend de nous. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Parlant de nouvelles technologies de l'information, j'ai identifié 4 clés. Ce n'est pas tout, mais ces 4 clés peuvent nous aider. Premièrement, prendre un repas ensemble chaque jour loin du téléphone. Au moins un repas avec votre conjoint chaque jour. Et pendant que vous prenez ce repas, le téléphone n'est pas à table avec vous. Deuxième clé, planifier. Beaucoup l'ont dit ici, il faut se discipliner. Prévoir chaque semaine un moment où vous êtes ensemble. Un moment spécial, ça peut être un avant-midi ou un après-midi, mais au moins une fois par semaine, pas avec les enfants, mais un moment où vous êtes rien que vous deux, une fois par semaine au moins. Troisième clé, gardez vos téléphones ou nos téléphones loin du lit pendant la nuit. Et quatrièmement, réservez 15 minutes par jour pour parler l'un à l'autre, 5-15 minutes par jour, pour parler l'un à l'autre sans le téléphone. Juste 15 minutes chaque jour. Est-ce que ce n'est pas possible? Ce sont des pratiques, ce sont des petites choses, mais le plus important, c'est que lorsqu'on les garde, on les maintient dans la durée, ça produit des résultats qu'on peut palper. Et je sais que le Seigneur va continuer à nous montrer comment nous pouvons nous y prendre. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide tous. C'est vrai que je suis ici devant vous, apparemment comme l'enseignant, mais je suis aussi étudiant avec vous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et je vous remercie. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier. Au début de ce sermon, nous avons commencé par la prière, nous avons prié pour nos foyers, mais j'aimerais que nous puissions une fois de plus porter nos familles, nos foyers devant le Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez penser à un besoin particulier que vous avez dans votre foyer. Un besoin particulier. Si le Seigneur vous demandait qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, pour votre mariage, ça serait quoi? Et si vous n'êtes pas marié, vous pouvez également faire cette prière. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur vous donne? En parlant de mariage, en pensant au mariage, quel type de mariage vous voulez? Et si vous n'avez plus votre conjoint avec vous, j'aimerais vous exhorter ou vous inviter à porter dans la prière un couple que vous connaissez et qui a un besoin que vous connaissez et pour lequel vous pouvez être une bénédiction en intercédant pour ce couple. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Je vais inviter le pasteur à clôturer ce moment de prière. Élevons nos voix, s'il vous plaît.
Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour ta parole, tu as plusieurs voies par lesquelles tu véhicules ton message à notre faveur, nous tes enfants. Quelquefois, nous pensons que nous sommes dans le bien. Quelquefois, Seigneur, nous avons catalogué le péché et ce qui n'est pas péché. Et peut-être, en un moment donné, ceci nous donne un comportement que nous-mêmes, nous pensons que c'est bon, pendant que nous faisons du mal à ceux qui sont à côté de nous. Seigneur, tu vois ce papa, tu vois cette maman, tu vois cette sœur, tu vois ce frère. Nous sommes tous debout devant toi. Nous venons, Seigneur, nous repentir de tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait, et nous avons cru que c'est normal. Seigneur, aide-nous, car nous avons besoin de toi. Visite chacun de nous pour la bonne vie et l'harmonie conjugale. Tu connais le problème de tout un chacun de nous. Nous venons d'apprendre sur l'utilisation des outils de la nouvelle technologie. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous amener. Nous semblons à vivre ensemble pendant que nous ne sommes pas unis dans nos foyers. Seigneur, aide-nous à revenir et que chacun de nous puisse se souvenir de ces vœux qu'il avait donné le jour de son mariage. Nous avons dit que nous serons près de nos conjoints ou nos conjointes. Nous l'avons dit devant toi et devant l'Église, Seigneur, que toute autre chose ne nous emportera. Mais au fur et à mesure, nous sommes emportés par les choses de ce monde. Nous sommes emportés et nous ne réalisons pas notre responsabilité comme tu nous as appelés, Seigneur. Nous prions pour l'unité dans nos couples. Nous prions pour l'amour dans nos couples. Nous prions, Seigneur, pour la vie dans nos couples. Plusieurs d'entre nous font semblant de vivre ensemble, font semblant d'être mari et femme, pendant que c'est depuis longtemps qu'ils ne sont plus ensemble. Il n'y a plus la vie entre eux. Seigneur, nous voulons que tu viennes nous recoudre. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore construire ces foyers qui sont détruits, ces foyers qui sont à la tangente. Seigneur, plusieurs femmes déplorent leur vie conjugale parce qu'elles ne sont pas satisfaites de la responsabilité de leur mari. Plusieurs maris ont des plaintes parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la responsabilité de leur femme. Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Visite chacun de nous, car c'est toi qui as initié le mariage et c'est toi qui connais comment nous pouvons nous comporter pour la réussite de ce mariage. Nous savons aussi que le diable n'a jamais aimé l'unité. Il cherche toujours des choses qui peuvent nous amener à nous désunir. Et il peut venir avec des choses, à nos yeux, ça nous semble bon. Seigneur, aide-nous. Et donne à chacun de nous l'esprit de discernement. Donne à chacun de nous, Seigneur, ces moments de l'autodiscipline. Et tout ceci pour ta gloire. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.